VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, l'opposition a saisi la Cour constitutionnelle et manifesté aujourd'hui à Johannesburg pour exiger que le président Jacob Zuma rembourse une partie des plus de 20 millions de dollars de fonds publics utilisés pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Les précisions d'Idriss Fall.
Environ 5 000 membres de l'Alliance démocratique et des combattants de la liberté économique, le parti du bouillant Julius Malema, ont battu le pavé devant la Cour constitutionnelle à Joburg. Ils ont scandé le même slogan « Rends l'argent » qui retentit au Parlement à chaque apparition du chef de l'État. Et Jacob Zuma doit prononcer jeudi son discours sur l'état de la nation devant le Parlement au Cap. L'année dernière, la session a été perturbée par les partisans de Malema qui ont été brutalement expulsés. Ce scandale a débuté en 2014. La médiatrice de la République, dans son rapport, avait dit que le président Zuma avait indûment bénéficié des deniers publics pour rénover sa résidence privée. Elle avait recommandé qu'il rembourse une partie de l'argent détourné. Depuis, M. Zuma, qui a toujours rejeté l'idée de leur rembourser un seul centime, a fait volte-face il y a une semaine, admettant qu'il pourrait rendre une partie de la somme. Les élections municipales prévues en août prochain seront certainement un test pour l'ANC qui règne sans partage depuis la fin de l'apartheid il y a 22 ans.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Sierra Leone, la dernière patiente connue d'Ebola officiellement guérie. Le compte à rebours de 42 jours est engagé pour proclamer à nouveau la fin de l'épidémie dans le pays, mais une trentaine de personnes susceptibles d'avoir été contaminées n'ont toujours pas été localisées. Et puis en Guinée, plusieurs associations de presse réclament justice après la mort de leur confrère tué vendredi dernier par balle au siège de l'UFDG, un parti d'opposition. C'est après une marche que les journalistes ont demandé hier au gouvernement guinéen de faire toute la lumière sur cette affaire. Et écoutons leur porte-parole, Mam Diallo.
Nous sommes offusqués, scandalisés, heurtés par l'audace des assaillants qui ont commis ce crime odieux en plein jour au sein d'un parti politique qui aspire au règne de ce pays. La presse unie comme un seul homme exige que lumière soit faite afin que les auteurs soient poursuivis, arrêtés et punis de leur forfaiture. Et plus loin, nous demandons que ceux qui sont à la base de cette tuerie, ceux qui ont parrainé ou soutenu ce carnage,
Mam Diallo à Conakry en Guinée. Et puis au Burkina Faso, les juges s'occupant du putsch manqué de septembre 2015 disent n'avoir subi aucune pression pour lever le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Des rumeurs faisaient état de pression du pouvoir pour lever ce mandat d'arrêt. Au Nigeria, des milliers de travailleurs ont manifesté hier à Abuja et à Lagos contre la hausse du prix de l'électricité. Selon le ministre de l'énergie Babatunde Fashola, cette hausse est nécessaire pour améliorer la production, vu que les coupures d'électricité et les blackouts sont récurrents dans le pays. Afrique centrale maintenant, au Congo-Brazzaville, un ex-chef d'état-major candidat indépendant à la présidentielle de mars. Il s'agit du général Jean-Marie Michel Mokoko. Abus et exploitation sexuelle en Centrafrique et ailleurs dans le monde, l'ONU a nommé lundi une coordinatrice spéciale chargée d'améliorer la réponse des Nations Unies face à ce fléau. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'américaine Jane Hall-Lute a pour mission de renforcer la réponse onusienne aux nombreuses affaires d'abus sexuels qui ont terni l'image des casques bleus. Madame Lute est conseillère spéciale de l'ONU pour la réinstallation hors d'Irak des résidents du camp Ourouya près de l'aéroport de Bagdad. Sur 69 cas d'abus sexuels présumés recensés l'année dernière, dans 16 missions de paix dans le monde, 22 concernent la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Celle-ci a identifié récemment 7 nouveaux cas présumés, dont au moins 5 concernent des fillettes. Les Nations Unies ont commencé à nommer les pays dont sont originaires les soldats incriminés et à rapatrier des contingents entiers de casques bleus venus du Congo ou de la RDC. Il revient aux pays qui fournissent des troupes à l'ONU d'enquêter et de sanctionner les coupables.
Et puis cette nouvelle de dernière minute du Tchad, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 25 ans, vient d'être choisi par le mouvement patriotique du salut MPS au pouvoir pour être son candidat à la présidentielle du 10 avril. arrivé au pouvoir pour un coup d'État en 1990 en renversant Hissène Habré. Idriss Déby a déjà été élu président de la République à 4 reprises, chaque fois avec une écrasante majorité.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Élection primaire présidentielle aux États-Unis. Les électeurs du New Hampshire votent aujourd'hui dans la première primaire de la campagne électorale qui conduira au choix du prochain chef de l'exécutif américain. Les favoris dans les deux camps en présence sont, côté républicain, le milliardaire Donald Trump et chez les démocrates, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui mène devant l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton. Les autorités s'attendent à une participation record en dépit des fortes chutes de neige dans la région. L'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Thomas Camilindi, a assisté à des meetings politiques hier à Manchester, dans le New Hampshire. Son compte-rendu au micro de Nathalie Barge.
Tous les candidats ont battu campagne dans le New Hampshire. C'est inhabituel. Dans les élections précédentes, il y a des candidats qui délaissaient cet État. Et selon ce que les habitants m'ont dit, ils ont vraiment battu campagne des dizaines, voire quelquefois des centaines de fois. Pourquoi ? Parce que cet État est déterminant. Et donc, j'ai été à un meeting de Donald Trump, qui est donné favori chez les Républicains. Mais on nous a dit dans ce meeting-là, vous n'êtes pas invité, les journalistes, vous n'êtes pas invité, vous n'entrez pas. Mais j'ai été dans le meeting de Bernie Sanders, du Parti démocrate, qui est en tête des opinions de vote dans le New Hampshire. Et lui, donc, c'est un homme confiant, visiblement, qui est monté petit à petit dans les sondages, non seulement dans les sondages, mais aussi dans les finances. Aujourd'hui, il a dit, nous sommes en train de gagner parce que nous avons la population avec nous, qui nous donne de petites sommes, mais ils sont nombreux à nous donner ces petites sommes, qui font de grosses sommes pour nous permettre de faire cette campagne. Et donc, tous les gens étaient enthousiastes.
Alors, on a coutume de dire que dans cet État, les électeurs se décident au dernier moment, parce que environ 44% sont indépendants, donc ils ont le choix entre démocrates et républicains. Est-ce que vous en avez rencontré certains? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'une manière générale?
La plupart de gens à qui j'ai parlé, à commencer par les chauffeurs de taxi qui me promènent dans la ville, ils disent, nous, on a une devise, vie libre ou meurt. Nous voulons être libres de ces politiciens, nous voulons être libres de toutes ces choses, de toutes ces démagogies, et ils critiquent beaucoup de candidats. Donc, ce sont des gens, effectivement, qu'il fallait convaincre, et à mon avis, c'est pour cela que les candidats sont venus à plusieurs reprises, à des dizaines de fois ici, parce que selon les analystes politiques, s'il y a perte dans ces primaires dans le New Hampshire, il y a risque de quitter la campagne.
Vous avez été au meeting de Bernie Sanders. Comment l'avez-vous trouvé?
Il a l'air convaincant. Derrière son pupitre, il n'y avait que des jeunes qui avaient des pancartes de son slogan. Un slogan, grosso modo, qui dit « Notre futur, c'est ça ». Et donc, il pense qu'il va gagner.
Et du côté de Hillary Clinton, elle a des renforts en ce moment. Hein. Son époux, le président, sa fille, etc. Comment cela est-il perçu?
C'est perçu comme des efforts de dernière chance. Ils disent Hillary Clinton n'avait pas beaucoup de chance aujourd'hui et donc appelle son époux et sa fille en renfort. C'est un geste de désespoir. Et est-ce que ça va vraiment la sauver? Est-ce qu'elle va gagner cette élection? Les gens ici se posent vraiment la question.
Alors, il y a des têtes qui vont encore tomber, là, côté républicain, probablement, aujourd'hui.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le premier auquel les gens pensent beaucoup, c'est Jeb Bush, fils et frère de président. Et donc, lui, il a eu un mauvais score dans l'Iowa. Et les gens disent ici qu'il a encore un mauvais score. Il va partir pour sûr. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, ceux à qui on donne beaucoup de chance aujourd'hui, c'est les mêmes, les trois premiers de l'Iowa, Donald Trump, Ted Cruz et Marco Rubio. Et les autres donc risquent de partir effectivement.
Thomas Camilindi, notre envoyé spécial aux primaires du New Hampshire, ici aux États-Unis. Et puis le président américain Barack Obama présente ce mardi le budget 2017, le dernier de son mandat. Le document qui se heurtera certainement à l'opposition des deux chambres du Congrès contrôlées par l'opposition républicaine n'aura qu'une portée législative limitée, mais le chef de l'exécutif espère l'utiliser pour afficher une dernière fois ses priorités. Et pour terminer, le Président Obama a promulgué une loi lundi adoptée la semaine dernière par le Congrès qui vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique pour fournir de l'électricité à 50 millions d'Africains vivant en Afrique subsaharienne. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.